France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et dans les matins d'été, aujourd'hui, évidemment, Gisèle Halimi, une vie de combat, une vie pour changer le monde et comme outil le droit, plaider, défendre et s'adresser, comme elle le disait, à l'opinion, au pays, par-dessus la tête des magistrats. Dès l'enfance, rébellion contre l'insupportable différence de traitement parce que fille. Dès l'adolescence, la volonté de remettre en cause les choses injustement établies, elle y arrivera à de nombreuses reprises et c'est sur ces combats et ses victoires, toujours vues comme des pas, puisque la route est longue, que nous allons revenir. Dans quelques minutes, nous serons avec l'historienne Michèle Perrot et l'avocate porte-parole de la Fondation des Femmes Zoé Royaux. Mais d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Historien, professeur des universités, auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie et la question coloniale. Vous connaissiez bien Gisèle Halimi, Benjamin Stora. En 2019, elle disait à Annick Cogent du Monde, il se trouve que l'histoire est rapidement venue à ma rencontre. Les luttes d'indépendance m'ont cueillie de plein fouet. D'abord celle de mon pays d'origine, la Tunisie, que je soutenais spontanément, puis celle de l'Algérie. Cet engagement-là, il est fondamental pour elle?
Il est effectivement fondamental. J'avais rencontré longuement Gisèle Halimi à l'occasion de mes travaux sur l'histoire de la guerre d'Algérie, bien sûr. Mmh. Et elle avait plaidé la cause des militants nationalistes algériens, sans appartenance d'ailleurs politique d'origine, qu'ils soient FLN ou MNA. Mmh. Et elle avait plaidé en particulier pour la grâce des condamnés à mort algériens. Ça, c'est très important. Parce que effectivement la question de la peine de mort est aussi était un des grands combats de sa vie, bien entendu. Mmh. Et donc elle avait lié la question de la cause anticolonialiste avec, comme on le sait, la cause pour l'indépendance des femmes, la libération des femmes. Donc ces causes de libération, que ce soit l'anticolonialisme ou la libération des femmes, pour elle étaient intimement lié. Et puis sur l'Algérie, bien sûr, il y a eu la rencontre avec Simone de Beauvoir dans la bataille, disons, autour de la grâce pour Djamila Boupacha, avec le livre qu'elle a sorti en 1960, qui avait été dessiné, la couverture de ce livre avait été dessinée par Pablo Picasso. Donc c'est un combat pour elle, bien sûr, fondateur, avec bien sûr la bataille pour la Tunisie indépendante, pour l'Algérie indépendante, donc l'anticolonialisme et la cause pour la libération des femmes. Et puis enfin, je dirais un mot sur le fait que je l'avais rencontrée lorsqu'elle avait travaillé, rédigé son livre très important pour elle sur la Kaena, qui est une femme résistante dans les Aurès, qui combattait complètement contre la soumission, contre l'asservissement. Et ce livre de la Kaena, cette reine des Aurès, pour elle était aussi extrêmement important.
Peut-être, Benjamin Stora, parlez-nous un peu plus en détail de cette affaire, de ce procès célèbre Djamila Boupacha.
Oui, c'est un procès en fait qui est très important parce que Djamila Boupacha avait été violée par des militaires français. Donc, bien entendu, la question du viol, elle voulait absolument reconnaître ce viol comme un crime, chose qui sera fait, on le sait, bien plus tard. Mmh. Et en même temps, elle s'était liée avec Simone de Beauvoir. À cette occasion-là, ou à l'occasion de ce procès, elle avait demandé, cette grâce, parce que Djamila Boupacha a été quand même condamnée à mort. Elle n'avait pas réussi, à faire en sorte qu'elle ne le soit pas. Donc, elle a été condamnée à mort et graciée après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Donc, ça a été une très grande bataille, une très grande cause, que Gisèle Halimi, tout au long de sa vie, d'ailleurs, a revendiqué, que ce soit dans ses ouvrages, dans ses nombreux entretiens, etc., qui était à la fois la cause de la libération des femmes et la cause anticoloniale.
Et c'est aussi, comme pour d'autres procès dont nous parlerons ensuite, effectivement, cette capacité à inclure la société, à l'informer aussi déjà de ce qui se passait avec cette affaire.
Oui, tout à fait. Ce qui caractérise aussi l'attitude de Gisèle Halimi, c'est son rapport au monde, c'est-à-dire regarder l'histoire de tous les côtés, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans une seule cause, dans une seule histoire, mais combattre pour celle de l'émancipation et de la liberté. Ça, c'est fondamental. Elle n'était pas la femme d'une seule cause, mais la femme tout simplement de la cause pour l'émancipation et la liberté. Et dans ce cadre-là, la question, bien sûr, de l'indépendance des femmes était naturellement devenue primordiale dans sa vie, on le sait, à travers ses écrits, bien sûr ses écrits autobiographiques et dans ses combats, dont vous parlerez bien sûr plus tard, avec la grande historienne Michèle Perrot, bien entendu. Mais cette question, disons, d'un regard posée sur le monde contre l'injustice, pour l'émancipation et pour la liberté, c'est quelque chose de tout à fait central, de tout à fait évident, sans chercher d'ailleurs à s'enfermer dans un ghetto, dans une seule cause, mais oui, de regarder encore une fois l'histoire de tous les côtés.
Et sans chercher à choisir aussi, à hiérarchiser les luttes.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, encore une fois, pour elle, il y a une cause commune. Cette cause commune, c'est celle de l'émancipation des femmes, contre la peine de mort, bien sûr, mais aussi pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour elle, c'était intimement lié. Il n'y avait pas, disons, des séparations, d'étanchéités. Elle était, bref, une combattante de l'universel.
Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment, Benjamin Stora, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous ce matin sur France Culture pour parler de Gisèle Halimi. On renvoie bien sûr vers vos nombreux livres et le dernier, une mémoire algérienne publiée chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Et nous poursuivons donc avec vous, Michel Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Historienne, professeure émérite à l'université Paris 7 Diderot, spécialiste des mouvements ouvriers et des combats féministes. Vous aussi êtes avec nous, Zoé Royaux, bonjour.
Bonjour.
Avocate, porte-parole de la Fondation des Femmes. Peut-être d'abord, Michel Perrault, sur ce que vient de dire Benjamin Stora. Pour vous aussi, c'est fondamental cet engagement anticolonialiste, ce procès Djamila Boupacha. Comment d'ailleurs a-t-il été vécu à l'époque ce procès, cette affaire et toute cette mobilisation qu'il y a eu autour?
Alors c'est très important. Ça a été très important pour elle, et Benjamin Stora vient magnifiquement de le rappeler, mais ça a été très important pour tous ceux qui étaient à l'époque engagés contre la guerre d'Algérie. C'était ma génération, nous étions... j'habitais Caen à ce moment-là, etc. Et Djamila Boupacha, ça a beaucoup compté. Et puis, c'est la première fois, au fond, que nous réalisions, nous la voyions apparaître à ce moment-là. Gisèle Halimi, on la connaissait pas, évidemment. Et avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui, elle, on la connaissait, 1949, etc. Donc, il y avait l'alliance presque de deux générations. Hein, et de deux générations unies pour l'indépendance algérienne, pour les femmes, puisqu'enfin Djamila Boupacha avait été torturée, violée par les militaires français, et nous étions en plein révolte, on peut dire, hein, en pleine révolte contre la torture, et par conséquent, il y avait la voix féminine, il n'y avait pas tellement de voix féminine de Gisèle Halimi pour parler de ça. C'était très très important.
Et l'Humanité publie ce matin des extraits d'un entretien de 2009 dans lequel Gisèle Halimi explique qu'elle ne veut pas choisir ce qui a été le plus important pour elle entre la lutte pour la dignité des femmes ou la lutte anticoloniale. Pour moi, cela revient au même. Dans les deux cas, refus de l'oppression, de l'humiliation et de la domination. C'est ce que nous disions avec Benjamin Stora, Michel Perrault.
Oui, il y avait, c'était lié. Tout ça était lié. Elle avait vécu elle-même les révoltes dans son pays, en Tunisie, et elle avait subi une vision des femmes qui ne lui convenait pas du tout. Elle était de milieu juif, et ses parents étaient assez traditionnalistes, en définitive. On voulait la marier, on ne voulait pas du tout qu'elle fasse d'études. Elle a eu plus un allié vers son père que vers sa mère. Avec sa mère, elle ne s'est jamais bien comprise, jamais bien entendue. Donc, tout ça, elle l'avait éprouvé aussi en Afrique du Nord. Elle avait vu ce que ça pouvait être, la domination des femmes en Afrique du Nord. Et par conséquent, libérer les femmes, libérer en même temps les peuples du Maghreb, ça faisait une seule lutte. Elle disait très tôt, elle a dit, c'est pas juste. Elle disait ça. Et plus tard, je l'ai entendu dire ça. C'est pas juste. C'était presque une devise pour elle. Tout ce qui n'était pas juste, elle était contre. Voilà. Et elle se battait pour rétablir la justice.
Benjamin Stora est resté avec nous. Vous voulez intervenir, je crois.
Non, c'est juste pour dire une phrase sur Gisèle Halimi. C'est son courage physique pendant la guerre d'Algérie, parce qu'elle est allée plusieurs fois à Alger plaider la cause, disons, des militants algériens, et elle était menacée de mort régulièrement par les partisans ultra de l'Algérie française, qui d'ailleurs aujourd'hui encore n'ont toujours pas désarmé, et elle a affronté physiquement disons, ces hommes qui en voulaient à sa vie, tout simplement. Et elle l'a fait à plusieurs reprises. Et je voudrais souligner son courage physique, y compris qu'elle a manifesté lors des procès. On connaît bien sûr le procès de Bobigny, le procès des violeurs d'Aix-en-Provence, etc. Et à chaque fois, elle était menacée par des hommes qui voulaient attenter carrément à sa vie. Elle a fait face et elle a fait front. Et je crois que cette question du courage physique est tout à fait essentielle.
De ce courage physique, effectivement, de cette solidité, de cette droiture, Zoé Royau, l'apport de Gisèle Halimi au féminisme, au droit des femmes, il passe vraiment par ses procès. Donc on a parlé de Djamila Boupacha et puis effectivement Bobigny. Gisèle Halimi défend une jeune femme jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol à 16 ans. 78, Aix-en-Provence, elle représente un couple de femmes violées par 3 hommes. Et à chaque fois, cette idée du procès comme levier pour faire bouger la loi.
Oui, cette idée du procès comme levier, vous avez raison, et surtout de pouvoir convoquer l'opinion publique, de l'informer. Ça commence déjà avec Djamila Boupacha, où elle dit « il faut qu'on dépose plainte, il faut que l'opinion publique sache ce qui vous est arrivé, le viol par une bouteille, les cigarettes écrasées sur les seins ». Et puis ensuite, effectivement, c'est Bobigny, où tout d'un coup, elle convoque des témoins, mais c'est pas des témoins habituels qui sont témoins de la personnalité des accusés ou des victimes ou des faits. Non, c'est des témoins de la société civile, donc c'est des militantes féministes. Delphine Seyrig, Françoise Fabian, c'est aussi des individus de l'univers politique, Michel Rocard, Aimé Césaire, et puis aussi de l'univers aussi médical, pour venir expliquer aux magistrats, passer au-dessus des magistrats, mais pour leur dire, voilà ce que c'est l'avortement pour les femmes aujourd'hui clandestin en France. Et c'est pareil en 78, quand elle fait venir aussi la société civile dans l'enceinte judiciaire. Et ça, c'est sa manière à elle de mettre en place un procès politique pour qu'il ait une utilité sociale et pour pouvoir combattre effectivement la loi qu'elle considère comme étant injuste. Et ça, c'est révolutionnaire, en réalité.
Parler à la société par-dessus la tête des magistrats.
Exactement, en sachant que ceux qui donneront la réponse sont les magistrats. Donc elle les respecte pour ça aussi, mais elle veut leur expliquer l'intégralité du sujet qu'elle leur présente.
Ne pas supporter les injustices, mais croire profondément en la justice pour faire bouger les choses et la société.
Oui, et croire en l'égalité aussi, l'égalité totale. Donc vous le dites, c'est son enfance en tant que fille et femme, et puis ensuite c'est son combat pour la décolonisation, et après le combat pour les femmes, et c'est toujours la même chose, c'est un combat pour l'égalité, contre l'oppression en effet, ce qui a déjà été dit par Michel Perrault. Oui.
Michel Perrault, sur ses procès, effectivement, ces procès de Bobigny, puis d'Aix-en-Provence, il faut rappeler, voilà, parce que c'est très important, que ce sont des procès qui ont clairement marqué des avancées vers des lois, très concrètement, en 75 sur l'IVG, en 1980, la loi qui fait du viol un crime. C'est à ce titre que Gisèle Halimi, comme vous le dites ce matin dans Libération, a fait l'histoire.
Ah oui, bien sûr. J'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure sur la présence physique de Gisèle Halimi. Elle est un corps, Gisèle Halimi, il faut le rappeler, une grande femme belle, hein, avec une longue chevelure blonde et une voix, voilà. Et cette voix qui vient d'être évoquée dans les procès me paraît tout à fait essentielle. Et en effet, elle s'inscrivait dans la loi, comme ça vient d'être dit très bien. Pour elle, elle était juriste, hein, elle avait cette formation. Elle croyait aux droits. Pour elle, il n'y avait pas. Bien sûr, il y avait les droits formels, les droits réels, mais elle pensait que le droit était une dimension absolument essentielle de la vie. Donc, changer la loi, voilà. Ce qui suppose d'ailleurs une croyance en la République. Hein. C'est une républicaine. Elle croit en la République. Et à chaque fois, il faut arriver à changer la loi. Et le procès de Bobigny a été absolument fondamental. C'est lui, ce procès, qui a permis, en quelque sorte, avec naturellement la mobilisation des femmes, dont ce procès est un moment essentiel, qui a permis la loi Veil, ensuite. Au fond, Simone Veil est au Panthéon, Gisèle Halimi devrait être au Panthéon.
Alors ça, nous verrons. Zoé Royau, ces procès, ce procès de Bobigny notamment, voilà, on dit la foi, dit Michel Perrault, en tout cas cette confiance en la justice, en cette capacité à faire avancer les droits, mais aussi le combat, parce que vraiment à l'extérieur, au moment de ces procès, c'est très agité, c'est parfois même violent. Il y a du monde, il y a des manifestations, il y a des invectives. Voilà, elle voulait faire bouger la société. La société, elle bouge effectivement dans ces moments-là. Elle est remuée.
Oui, la société est convoquée par Gisèle Halimi et en même temps la société a envie d'être là et de pouvoir faire avancer les choses aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que en 78, donc le procès Aix-en-Provence, donc des violeurs qui de Marseille, elle demande est-ce qu'il n'est pas du huis clos. Et ça, c'est très nouveau parce qu'en réalité, alors elle dit évidemment si les victimes le veulent, je ne m'y opposerai pas. Mais je veux pas qu'il y ait du huis clos parce que je veux que l'opinion sache ce qui s'est passé, qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé. Le scandale, c'est de ne pas dire en fait, de ne pas dire ce que c'est que les conditions des femmes qui avortent clandestinement et de ne pas dire ce que c'est qu'une femme qui ou deux femmes qui sont violées par des hommes. Il faut que les hommes répondent aussi de leurs responsabilités devant la société civile. Et ça, c'est très, très novateur aussi pour elle de convoquer ça aussi et de faire... C'est peut-être l'ancêtre de la honte change de camp. Alors, on en parle maintenant beaucoup, mais à l'époque, c'est ça, en 78.
Oui, elle le dit quasiment, d'ailleurs, avec ces mots hein, concernant, effectivement, 78 et le fait que le procès soit public. Elle dit peut-être aussi que si tout le monde sait ce qu'ils ont fait, ça va les faire réfléchir, ça va faire réfléchir les autres.
C'est de la pédagogie. Elle veut aussi qu'il puisse y avoir, à travers les procès et les décisions de justice, une pédagogie. Elle dit, j'explique aux magistrats, parce que pour juger, il faut comprendre. Je veux qu'ils comprennent. Donc, je les respecte pour leur autorité et pour la décision qu'ils vont rendre. Et je veux que la société civile comprenne aussi. Et aussi, ceux qui sont accusés et qui sont jugés puissent comprendre. L'idée de Gisèle Halimi, c'est de se battre pour l'égalité et donc de faire évoluer les mentalités. C'est aussi aujourd'hui l'idée des féministes, hein, de faire évoluer les mentalités. La loi ne suffit pas, la justice non plus, malheureusement.
Vous dites, Michel Perrault, que Gisèle Halimi a vraiment pénétré l'espace public. Alors il y a évidemment, il faut en parler aussi, en 1971, le manifeste des 343 femmes proclamant avoir avorté. Là aussi, c'est encore un engagement très fort, un véritable engagement, puisqu'elle est la seule avocate à le signer et qu'elle le fait pour défendre celles qui auront des problèmes.
Oui, c'est fondamental. Ce manifeste des 343 salopes, comme il a été dit avec une sombre ironie, elle en est. Hein. Elle en est aux côtés de Simone de Beauvoir, de Delphine Seyrig et de bien d'autres femmes connues déjà à l'époque, hein, tout à fait. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut voir avec tout ça et derrière tout ça la mobilisation des femmes. Le mouvement de libération des femmes a été fondé en France en 70, parce que les femmes avaient été un peu déçues, il faut bien le dire, par les effets de 68 en ce qui les concernait. Et immédiatement, ce mouvement est axé sur les problèmes du corps, de la contraception. Il y avait eu une loi, la loi Neuwirth en 67, oui. Mais enfin, elle n'était pas appliquée. C'était très difficile de se procurer la moindre pilule. Et naturellement, l'avortement, la loi de 1920, renforcée encore, c'était terrible. Donc, il y avait un mur. Mais contre ce mur, de plus en plus de femmes protestent, bougent, manifestent. Il faut voir ce qu'étaient les rues de Paris à cette époque-là. Hein. C'était au moins dans le centre de Paris. Hein. Il y avait tous les jours, il y avait des manifestations. Jussieu en était un des cendres, et je me souviens qu'on pliait les banderoles pour les déplier le lendemain. Et naturellement, tout le monde venait à Bobigny autour de Gisèle Halimi. Mmh. Et si tout le monde ne pouvait évidemment pas entrer dans la salle, c'était impossible, mais autour. Et puis, quand c'était pas autour, c'était plus loin, c'était ailleurs, c'était au même moment, pour soutenir. Autrement dit, il y avait une rencontre entre un mouvement de libération des femmes en train de se faire, et Gisèle Halimi, et évidemment le procès de Bobigny, est un événement absolument majeur. C'est tout à fait décisif, comme on vient de le dire, d'ailleurs.
Le procès de Bobigny est donc le manifeste des 443, suivi par la création de l'association Choisir la cause des femmes. Chaque mot compte, mais le premier, c'est bien choisir. Écoutons Gisèle Halimi, archive INA de 1972.
Ne croyez-vous pas que la libéralisation de l'avortement fasse reculer la contraception ?
Non, voyez-vous, ce que vous dites libéralisation, nous parlons de la liberté, c'est pas la même chose. Hein. Ça n'est pas, nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Alors, pour répondre à votre question, je vous signale que notre association a trois objectifs. Le premier étant la contraception. Le deuxième, suppression de toutes les, des textes répressifs. Et le troisième, défense gratuite de tous les inculpés, justement, d'avortement. Donc, tout cela, l'avortement n'est qu'un volet du problème, l'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Et par conséquent, cela implique une contraception, mais il faut bien dire que la montagne dont nous parlons ici, dont nous parle M. Neuwirth depuis un certain temps, n'a accouché que d'une souris.
Le choix, la liberté, en écho à ce que vous évoquiez, Michèle Perrot, historienne, Zoé Royaux, avocate, porte-parole de la Fondation des Femmes. Nous vous retrouvons aux alentours de 8h20 pour poursuivre et évidemment cette discussion.
France Culture, les matins d'été. Chloé Cambrelin.
De retour avec nos invités, Michèle Perrot, historienne, professeure émérite à l'université Paris 7 Diderot, spécialiste des mouvements ouvriers et des combats féministes, et Zoé Royaux, avocate porte-parole de la Fondation des Femmes, pour évoquer les combats de Gisèle Halimi. Nous avons parlé avant 8 heures des grands procès qui ont réellement marqué des évolutions de la société et du droit. Juste avant 8 heures, nous parlions en 1971 du manifeste des 343 femmes proclamant avoir avorté. 71 aussi, donc, la création de l'association Choisir la cause des femmes avec Simone de Beauvoir et d'autres. Zoé Royaux, une fois encore, là c'est très concret, les mots et les actes, occuper, investir l'espace public, c'est parce qu'elle fait tout ça à la fois aussi que Gisèle Halimi représente, ce qu'elle représente pour le mouvement féministe.
Oui, elle est une porte-parole avec sur le terrain qui est le sien, qui est le terrain du droit, encore une fois, donc dans les instances judiciaires, mais elle se contente pas de ça. Et à chaque fois, elle, là, c'est Choisir la cause des femmes, c'était aussi le comité de soutien pour Jamila Boupacha à l'époque. Donc à chaque fois, elle convoque et elle réunit autour d'elle différentes figures qui sont très importantes et qui feront aussi avancer les choses. Donc elle met des mots sur tout ça, publiquement.
Michèle Perrot, depuis hier, on lit un peu, on entend des débats, des échanges où certains reprochent à d'autres de présenter Gisèle Halimi plus lisse qu'elle n'était, de sous-estimer son côté combattante. Cela reflète des débats que l'on connaît aujourd'hui et qui existaient déjà à l'époque, non, Michèle Perrot?
Bien sûr, ce serait une erreur de penser que le féminisme a toujours été sororal, uni, etc. C'était d'ailleurs pas du tout le genre de Gisèle, hein, pas du tout. Elle était tout à fait convaincue qu'il y avait des difficultés, y compris du côté des femmes, hein, et qu'il fallait les convaincre, les entraîner, et que peut-être même c'était du côté des femmes qu'il fallait agir, parce que on n'arriverait pas à convaincre s'il n'y avait pas une unité des femmes. Il fallait les entraîner. Mais il fallait les entraîner vraiment par l'action. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans Gisèle Halimi, c'est sa possibilité de faire plusieurs choses. Hein. Par exemple, on a beaucoup parlé de son action pour les femmes, mais elle était écrivaine aussi, on en parlera peut-être.
Oui,
elle a aussi été une femme politique. Donc, elle a une espèce d'énergie vitale qui est absolument fascinante, quoi. Tout à fait.
Députée, effectivement, apparentée socialiste en 81. Bon, elle ne gardera pas forcément un merveilleux souvenir de cette expérience dans À Voix Nue, le À Voix Nue réalisé par Virginie Boclenet. Elle dit « La politique n'a pas voulu de moi » et vice-versa. Je vous propose d'écouter un autre extrait de cette série d'À Voix Nue pour écouter justement Gisèle Halimi évoquer elle-même La lutte féministe et la manière dont elle l'aperçoit. C'était en 2011.
J'avais pris conscience assez tôt que le féminisme était une révolution tout à fait extraordinaire, unique en son genre, parce que elle remettait en cause absolument l'intégralité des données, des tabous d'une société, des données même économiques, culturelles, religieuses, familiales, ça remettait en cause tout. Et ça avait pour soi que cette révolution, à l'inverse des autres révolutions, n'employait pas le terrorisme, ne tuait pas, n'éliminait pas définitivement, n'avait pas de victimes. Et c'est, je dirais, sa dimension la plus forte, la plus culturelle, parce que c'est une dimension qui implique que vous avez comme tâche de convaincre l'autre pour l'amalgamer à votre point de vue et pour qu'il vous aide à changer la société. C'est en ça que je trouvais que le féminisme était une révolution particulière, parce que déjà humaniste, quoi, avant même qu'on ait triomphé, dans les moyens employés, on avait des moyens que les révolutions, elles, n'emploient pas.
Gisèle Halimi avec Virginie Bloch-Lainé a voulu sur France Culture en 2011. Zoé Royaux sur cette façon de voir le féminisme, une révolution qui ne tue pas mais qui n'en est pas moins un combat.
Ouais, qui ne fait pas de victimes, qui est une révolution humaniste et qui passe par, elle le dit, la culture, l'évolution des mentalités. Puis elle expliquait aussi d'ailleurs qu'elle était une avocate partisane, qu'elle n'était pas capable forcément d'avoir du recul, mais qu'elle voulait pouvoir se battre. Mais il y a mille façons de se battre et elle l'explique très bien. C'est pas, le féminisme n'est pas forcément totalement pacifique, mais en tous les cas, l'idée, c'est évidemment de ne pas faire de victimes et de gagner des droits. Et de simplement expliquer, elle le dit aussi très bien sur les différents plateaux télé, d'expliquer à celui qui oppresse, à l'homme, qu'il va perdre des privilèges, mais que c'est pour gagner une égalité. Donc oui, il n'y a pas de violence.
Michel Perrault, vous disiez effectivement voilà le combat pour les femmes, les livres. Et puis aussi, il faut mentionner tout de même que Gisèle Halimi a été aussi membre fondatrice d'ATTAC, qui signifie au départ l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Elle en a écrit les statuts. Et là, on revient finalement au début de notre discussion. La matrice, c'est la lutte contre l'injustice, l'oppression, la domination, quel que soit le moyen.
Bien sûr. Elle avait une idée. Elle n'était pas une théoricienne, Gisèle Halimi, mais elle savait bien que l'injustice c'est dans un système et qu'il faut s'attaquer au système. Et encore une fois, elle ne pensait pas une révolution. La violence lui faisait peur. Enfin, comme elle vient de le dire très bien là dans cette voix nue, une force tranquille, au fond, c'était un peu ça aussi. Hein. Par la force des femmes, l'union, la paix, hein, montrer l'injustice, la rendre de plus en plus consciente, et pour ça, utiliser tous les moyens, la parole et l'écriture. Moi, je voudrais qu'on souligne aussi le rôle de Gisèle Halimi comme écrivaine. Hein.
Allez-y,
elle a quand même écrit une quinzaine de livres, et tous les titres de ses livres sont intéressants. La cause des femmes, le lait de l'oranger, ne vous résignez jamais. C'est un livre qu'elle a publié en 2009. Hein. Et puis, on a parlé de la Caïna, bien sûr. Fritna, qui est sur sa mère. Et c'était une des souffrances de Gisèle, parce que elle a pensé, à juste titre, que sa mère ne l'avait jamais bien comprise, ne l'avait peut-être même pas lue. Hein. Et ça, c'était quelque chose qui la faisait souffrir. C'est pourquoi elle avait tellement souhaité... Oh, elle aurait souhaité avoir une fille avec ses trois fils magnifiques, c'était formidable, mais elle a été très heureuse d'avoir une petite fille. Et elle a raconté ça dans Histoire d'une passion, qui est paru en 2011, et qui est un de ses derniers livres, et un de ses très beaux livres. Et c'est important parce que on voit en même temps la femme, hein, la femme qui souffre. Elle a souffert, Gisèle Halimi, qui ne met pas sa souffrance en avant. Hein. C'était une femme pudique, tout à fait, mais sensible. Et cette sensibilité la rendait ouverte à tout ce que vivaient les femmes. C'était pas de loin, c'était de près. Elle les connaissait, elle les voyait. Elle avait son association, Choisir, hein, qui se réunissait régulièrement avec des appuis absolument indéfectibles. Et autour de tout ça, au fond, elle pensait une action cohérente, continue. On n'en avait jamais fini. Il fallait toujours continuer, car on avait toujours quelque chose à faire.
Et justement, Zoé Royaux, effectivement, Gisèle Halimi disait à propos de Simone de Beauvoir, elle a posé toutes les bases théoriques du féminisme. Il nous restait à en inventer les luttes. Il faut toujours continuer aujourd'hui à en inventer les luttes.
Bien sûr, il faut toujours continuer à en inventer les luttes et continuer à mener des contentieux stratégiques avec les armes dont on dispose, en l'occurrence le droit, pour faire avancer. Alors, le viol a été redéfini, pas criminalisé, mais redéfini en 1980, dont acte. Aujourd'hui, la définition n'est toujours pas adaptée à ce que peuvent dénoncer les femmes victimes de violences sexuelles. Donc, il faudrait pouvoir également redéfinir cette infraction criminelle. On a obtenu, par exemple, à la Fondation des Femmes, la première condamnation pour injure à raison du sexe. C'est des choses qui ne sont pas uniquement symboliques. symbolique, c'est important, les droits des femmes passent par là aussi, et la loi nous donne ces moyens de les obtenir légalement et sans violence, même si parfois la violence peut être utile. Et donc continuer évidemment, bien sûr, ces combats-là, et continuer aussi à faire évoluer les mentalités. La loi n'est pas toujours mal faite, c'est la façon dont on l'applique, et c'est ce que Gisèle Halimi disait, parfois la loi est bien, mais c'est la façon dont les magistrats peuvent l'appliquer, puisque la justice est humaine et donc forcément faillible. Donc il faut travailler là-dessus aussi, sur la façon dont sont reçues les victimes par les policiers, par les gendarmes, par les médecins qui les examinent et par les juges ensuite. C'est très important.
Et dont on entend leurs paroles.
Bien sûr, que la justice soit à la hauteur du courage des victimes, du courage et de la force des victimes. Il faut que la justice soit à la hauteur des femmes.
Dernière chose, Zoé Royot, ce matin dans Libération, l'avocate Caroline Mécari dit, on parle toujours des ténors du barreau.
Bien sûr.
Gisèle Halimi a été la plus grande des sopranos, longtemps le seul modèle de la profession pour les femmes. Elle a été le vôtre, on imagine en tout cas. Là-dessus, il y a encore aussi matière à progresser.
Oui, il y a matière à progresser parce que les femmes sont très sont invisibles en fait, comme dans toutes les matières. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup. On parlait du Pont-Moretti, on en parlera maintenant pour d'autres raisons, mais on parle beaucoup des ténors. Et puis même quand on parle des sopranos ou de la diva, il y a quelque chose qui paraît presque un peu plus ridicule, alors qu'il y a énormément de femmes qui plaident tous les jours et très bien. Et aujourd'hui, la profession d'avocat est encore une profession qui est très misogyne, surtout pour le pénal. On considère que les avocats défendront mieux, les avocates défendraient mieux les victimes ou les enfants parce qu'elles auraient une sensibilité ou un instinct maternel. Ça, il faut que ça change aussi, ouais.
Merci, très grand merci à vous, Zoé Royot, avocate, porte-parole de la Fondation des Femmes. Grand merci à vous également, Michel Perrault, d'avoir été avec nous, historienne. Votre dernier livre publié il y a quelques mois, La place des femmes, la difficile conquête de l'espace public, avec Jean Lebrun chez Textuel. Merci à toutes les deux. Merci encore également à Benjamin Stora, qui était là également avec nous à 7h40. Je vous renvoie sur notre site franceculture.fr pour retrouver la série D'Avoix Nues avec Gisèle Halimi, dont vous avez entendu un extrait. Vous pourrez également sur franceculture.fr retrouver le temps du débat d'été d'hier. Gisèle Halimi ou le droit comme arme, très riche discussion entre Emmanuel Laurentin et ses nombreux invités. Et puis nous savons donc par Annick Cogent, grande reporter au Monde, que le livre d'entretien qu'elle venait de terminer avec Gisèle Halimi, Une farouche liberté, sortira le 19 août aux éditions Grasset. Il est 8h30.